va parler un peu métier, on va leur poser des tas de questions indiscrètes sur leur pratique, sur leur économie. Je vais prononcer des tas de gros mots désagréables et puis ils répondront s'ils ont envie, mais je crois qu'on a tous envie de savoir comment ils fonctionnent concrètement. On est dans un secteur qui bouge. Alors les professionnels qui essaient d'analyser les évolutions globales du secteur disent les constats qu'on peut faire quand on regarde, je fais une toute petite introduction, mais du point de vue économique, on est dans un secteur qui est globalement stable en chiffre d'affaires, en très légère diminution, mais vraiment c'est pas un phénomène qui a pris une ampleur significative. Par contre, ce qui se passe, qui est assez frappant, c'est que le nombre de titres publiés augmente, et ça, c'est l'effet produit par l'arrivée sur le marché de nouveaux éditeurs, qu'on appelle souvent les petits éditeurs ou même quelquefois les micro-éditeurs. On ne va pas essayer de fixer à partir de quel seuil on est petit ou micro. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrive sur le marché de l'édition des acteurs qui sont assez différents de ce qu'étaient les acteurs traditionnels bien implantés, qui avaient des grosses maisons d'édition, et que c'est par eux qu'arrivent en même temps. C'est eux qui sont les plus en prise sur l'innovation, les mutations, les transformations. Ils ont probablement beaucoup plus de liberté pour expérimenter que n'ont les gros éditeurs traditionnels qui sont coincés par tout un tas de choses. On aura sûrement l'occasion d'en parler. On appelle ça la longue traîne de l'édition, quand on fait des courbes pour expliquer comment évolue le marché. C'est tous les petits, ils sont de plus en plus nombreux. Et je vous dis, c'est eux qui ont les choses les plus intéressantes à raconter, parce qu'ils font des choses très diverses, très nouvelles, et ils vont nous en parler, et j'espère qu'ils vont nous raconter tout ça. Et ce qui est certain, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à raconter. Alors, je vais leur passer la parole à tour de rôle. Je pense que le mieux, ce sera qu'ils se présentent au fur et à mesure qu'ils commenceront à nous expliquer ce qu'ils font. Et je proposerai bien... Je vais poser à tous, pour commencer, la même question. Je vais leur demander si les projets qu'ils ont, les maisons d'édition qu'ils ont créées, ils auraient pu les créer il y a 20 ans, dans un contexte où l'édition fonctionnait de manière traditionnelle. Est-ce que, avant l'arrivée des nouvelles technologies, avant Internet, avant le numérique, avant l'impression à la demande, avant la vente en ligne, avant... Enfin, ils vont nous parler de... Est-ce qu'ils auraient pu exister il y a 20 ans ? Qu'est-ce qu'il fait actuellement, sur quoi il s'appuie pour pouvoir exister? Alors, si elle est d'accord, je vous proposerai bien de commencer par poser la question à Nathalie Do, qui est à côté de moi, et qui gère les éditions Argemios. Si ton micro ne marche pas, je te passerai le mien.
Ça marche?
Non, il ne marche pas.
Okay.
Peut-être qu'il faut l'allumer.
Oui, non, là, je vais... ça marche,
là? Oui, ça. Okay. Alors, Nathalie Do. Nathalie Do est auteur et éditeur. Et si je le dis, c'est parce que je pense qu'il serait intéressant aussi de les interroger sur un autre aspect que j'ai constaté en préparant cette table ronde, c'est qu'en général, ils ne sont pas que éditeurs. Ils ont souvent envie d'avoir plusieurs casquettes dans le milieu de l'imaginaire. Je ne parle pas de ce qu'ils font éventuellement en plus ailleurs, mais rien que dans ce monde de l'imaginaire où ils sont très impliqués, ils ont en général plusieurs casquettes. Donc Nathalie est à la fois auteur et éditeur. Il y a sans doute un lien entre les deux. En tant qu'auteur, on peut citer d'elle, par exemple, les contes nialgiques, qui ont été publiés chez Magali Duez. On parlera tout à l'heure de l'éditeur des contes nialgiques. Mais Nathalie Do, aux éditions Argemios, elle publie une grande variété de choses. Elle publie des romans, des recueils, des anthologies, des livres pour enfants. Elle a un catalogue extrêmement varié. Bon, je vais demander à Nathalie, est-ce que tu aurais pu lancer tout ça il y a 20 ans?
Clairement non. Parce qu'il y a 20 ans, ben, j'aurais pas eu le choix. J'aurais dû imprimer mes livres en offset sur des grosses rotatives qui ont une passe. C'est-à-dire que le temps de régler la machine pour pouvoir fabriquer l'ouvrage, il y a tout un tas d'ouvrages, 100, 200, voire plus exemplaires, qui sont là pour caler et qui d'ailleurs repartent ensuite à la poubelle, ce qu'on appelle la passe. Et forcément, bah, ça a un coût et ça s'amortit si le volume d'impression est important. Des petits tirages comme nous on fait, c'était impossible avec l'offset. ça devenait rentable à partir de 1000 exemplaires fabriqués. 1000 exemplaires fabriqués, même si le coût unitaire de l'ouvrage n'est pas élevé, ça demande quand même au cumul une avance de trésorerie importante, et dont je n'ai plus, que je n'ai pas, et que je n'ai jamais eu, et je ne sais pas si je l'aurai un jour. Et en plus, il y a aussi le problème du stock. C'est-à-dire que tous les livres, une fois qu'ils sont fabriqués et pas encore vendus, pas encore placés chez les libraires, pas encore rangés sur les étagères de mon cher lecteur, eh bien tous ces livres, il faut bien les ranger quelque part. Et l'éditeur, s'il n'a pas la place chez lui, ben, il est obligé de louer un entrepôt ou de les faire stocker chez un diffuseur quand il en a. Et il y a les coûts d'assurance, c'est une immobilisation comptable, c'est de l'argent qui est sorti. Et tout ça, c'est des coûts énormes que j'aurais absolument pas pu assumer il y a 20 ans avec le système de fabrication traditionnel. Après, il y a donc j'évoquais la diffusion. Il y a 20 ans, il y avait uniquement des gros diffuseurs et distributeurs. Déjà à l'heure actuelle, c'est pas évident de s'autodiffuser parce qu'il y a très peu de libraires qui acceptent de travailler avec des éditeurs qui s'autodiffusent. Il y a 20 ans, c'était encore plus difficile. Quasiment mission impossible. Il y a 20 ans, je travaillais déjà dans le milieu du livre, puisque j'étais responsable des achats dans une entreprise de reliure industrielle. Et les éditeurs, c'était mes clients. Ils venaient me voir, puis ils me disaient... Donc, ils voyaient les commerciaux, ils devaient produire leurs ouvrages, donc je voyais bien. Nous, on n'imprimait pas, on recevait les liasses de feuilles imprimées chez l'imprimeur et on devait les relier. C'était pas du dos carré collé, c'était du cahier cousu avec des reliures en carton dur recouvertes de beaux matériaux. Il y avait de la toile, il y avait du cuir, du vertex, c'était doré. C'était vraiment du livre, il y avait du beau livre. Mais même à l'époque, même le livre grand public, le roman, etc., c'était déjà du dur. Enfin, c'était encore du dur. Donc voilà, j'avais quand même conscience de ce qu'était le marché à l'époque. J'avais des rêves.
Hein. C'est du dur, ça, quand même.
Non, ça, c'est du souple. C'est du souple. Le dur, on le trouve encore dans les bandes dessinées franco-belges. Chez Soleil, par exemple. C'est du carton qui est recouvert d'un pelliculage. On est, je crois, enfin, de temps en temps, il y a des éditions de luxe qui sont faites. Je crois que les éditions Voyelles en font, par exemple, où il y a des ouvrages.
Ah, là, on tient quelques-uns en luxe.
Les moutons électriques aussi.
Ouais, donc on va trouver encore de livres qui... avec une hardcover. Donc voilà, donc, il y a 20 ans, c'était même pas envisageable. Il fallait plusieurs centaines de milliers de francs pour envisager de créer une maison d'édition. Plus même, ne serait-ce que créer une société, c'était 50 000 francs, créer une société, pour déposer le capital. Donc voilà, ça, c'était juste pas envisageable.
Bon, je crois que Nathalie nous donne le point de départ essentiel, qui est, on n'a plus besoin de miser autant pour devenir éditeur. Finalement, on peut partir avec peu de moyens, peut-être pas avec l'espoir de faire de gros gains, c'est un autre volet de la question, mais c'est aussi pour ça, c'est que ces petits éditeurs sont en général des gens extrêmement passionnés et enthousiasmés par leur projet. C'est une autre démarche. Donc Nathalie nous a parlé, a bien posé la question de l'impression, du stock et des moyens financiers qu'il faut engager. Je vais peut-être demander à Magali Duez, qui dirige les éditions Griffes d'encre. Les éditions Griffes d'encre ont déjà un sérieux catalogue, pas mal de recul. Je pense que tu es maintenant à un stade où tu peux commencer à tirer des bilans assez significatifs. Pour parler un petit peu de Magali Duez, à titre personnel, elle est connue dans les milieux de l'imaginaire pour au moins une double activité. Elle est à la fois anthologiste, elle a fait déjà en de multiples occasions ce travail de rassemblement de textes, de faire émerger des contributions d'auteurs sur différentes thématiques, des anthologies qui ont été saluées. Et puis elle est en même temps, je ne sais pas si c'est avant, après, elle va nous expliquer si c'est lié, elle est aussi éditeur, elle s'est lancée dans cette grande aventure qui est quand même une aventure à risque et qui est consommatrice de beaucoup de temps et d'énergie. Alors Magali, est-ce que tu aurais pu faire ça il y a 20 ans? Est-ce que tu aurais pu faire ça sans les nouvelles technologies. Et puis, tu peux aussi nous parler peut-être de ta démarche pour te lancer dans l'aventure.
Alors, il y a 20 ans, comme Nathalie, ça n'aurait pas été possible pour les mêmes raisons déjà, tout ce qui est impression, enfin matériel, financier. Donc, elle a très bien expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, mais aussi pour d'autres raisons qui est l'émergence d'Internet. On travaille énormément avec Internet, que ce soit on reçoit nos soumissions par Internet, on retravaille avec nos auteurs par Internet, on travaille ensemble dans la maison d'édition par Internet, on se voit très peu, et on communique, on communique avec nos lecteurs, on fidélise, on a tout un univers avec Internet qui nous permet d'agir complètement différemment. Ce qui n'aurait pas été à 20 ans, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il y a même 10-15 ans, quand Internet n'était pas aussi développé, on n'avait pas tous les iPhones, les iPads, l'ordinateur, le Wi-Fi partout. C'était pas possible. Maintenant, on peut. Il y a des gens avec qui on travaille depuis 5 ans qu'on n'a jamais vu. Il y en a même qui sont devenus des amis qu'on n'a jamais vu. Et on travaille avec eux de façon très souple. Ça permet de gérer notre temps comme on veut, ça permet de ne pas avoir de locaux. Donc, en dehors du numérique, qui a été un grand pas pour tout ce qui est la concrétisation matérielle du livre, l'aspect physique du livre, tout ce qui est en amont a été grandement facilité. Ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas Internet et tout ce que ça offre. Donc, voilà pour il y a 20 ans. Et par rapport à... En fait, toi, qu'est-ce qui est venu en premier, l'anthologie ou le... Ce qui est venu en premier, j'écrivais. J'écrivais des nouvelles de temps en temps, j'en ai deux ou trois qui ont été publiées sous un pseudo que je ne citerai pas. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça, j'aimais beaucoup. Avant, j'aimais pas lire d'anthologie, et puis en participant à des anthos, je me suis dit tiens, c'est sympa. Et quand on a créé Rive d'encre, on voulait mettre en avant la forme courte. Parce que c'est un format qu'on trouve sympa, il y a plein de choses à dire, il y a plein de nouveaux auteurs qui ne sont pas encore essayés à la forme longue ou qui sont à découvrir par la forme courte. Il y a vraiment plein de choses là-dedans, donc on a décidé d'avoir que nos collections se déclineraient par le format utilisé. Donc les anthologies, les novellas, les recueils, et on a quand même quelques romans. Et quand on s'est réparti les collections, et que quelqu'un dit qui veut anthologie, moi je veux les anthologies. Et donc voilà, on peut dire que c'est Griffe d'encre qui est venu avant, et finalement, s'il y a un ordre, à la seconde près, et les anthologies après.
Et les jumeaux.
Voilà.
Toujours un premier
anthologie. Voilà, donc là, c'est Griffe d'encre qui est sorti le premier. Et c'est aussi encore quelque chose. Je ne me serais pas vue il y a 20 ans recevoir 300 nouvelles en papier et les photocopier, les envoyer à mon comité de lecture et appeler toutes les personnes du comité de lecture en leur disant bon, alors t'en as pensé quoi de celle-là, je prends, enfin à ton avis, je prends. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été rendu possible par l'émergence des nouvelles technologies et par cette souplesse, d'horaire, de temps, de. L'instantanéité des nouvelles technologies qui permet de faire énormément de choses et de travailler avec des gens dans toute la France, voire dans le monde entier.
Alors là, on a un deuxième aspect qui est vraiment intéressant aussi et qui transforme à la fois le rapport aux auteurs et aux lecteurs. Je crois que si on continue le tour de table, on va trouver encore d'autres choses. Alors, je me tourne vers Philippe Ward, qui dirige les éditions Rivière Blanche. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les éditions Rivière Blanche et qui seraient des amateurs depuis longtemps des genres de l'imaginaire, si ça évoque le fleuve noir, c'est pas du tout par hasard. Les éditions Rivière Blanche se présentent elles-mêmes. Philippe, tu crieras si t'es pas d'accord, mais comme je l'ai trouvé sur ton site, tu seras forcément d'accord, dans une optique résolument nostalgique. Donc voilà, on reprend l'esprit, le charme, les principes du récit d'aventure qui étaient déjà chers au projet du fleuve noir. Tu les ressuscites, tu les fais revivre, tu fais appel à un certain nombre d'auteurs de cette époque, tu vas chercher aussi des nouveaux auteurs. Les éditions Rivière Blanche, c'est quand même un projet qui est extrêmement significatif parce qu'il me semble que vous en êtes à plus de 120 titres. Hein, j'ai compté un peu.
150.
150. 150 ouvrages au catalogue, ce qui commence à faire une maison d'édition que je n'ose plus qualifier de petite édition, mais que peut-être que si quand même. Philippe Ward est aussi auteur, en même temps qu'il est éditeur. Alors Philippe, quand on fait une édition dans une optique résolument nostalgique, ça sert à quoi les nouvelles technologies? Est-ce que ça change quelque chose dans le projet ou ça aurait marché pareil, en gros, à l'époque du Fleuve Noir?
Ben, il y a 20 ans, oui, j'aurais pu monter une maison d'édition. Seulement, au bout de 3 mois, j'aurais été mis à la porte de chez moi par mon épouse, j'aurais été ruiné, j'aurais été chez un psy, j'aurais été devenu fou. Voilà, je dirais, mais j'aurais pu le faire il y a 20 ans. Seulement, je ne serais pas là ce moment-là.
En fait, aujourd'hui, ça va t'arriver aussi.
Ça va m'arriver aussi, parce que je crois que quand on est éditeur, il faut être fou. Ça, c'est un point, je ne sais pas si... Moi, je suis fou, donc je le reconnais. Donc, c'est vrai que les technologies, je veux dire que quand on a lancé Rivière Blanche, le premier point important pour nous, ça a été, je veux dire, de se dire, on va dormir la nuit. Et moi, c'était ça, je veux dormir la nuit, je ne veux pas avoir de problème. Donc, premier aspect financier, tu as parlé de gros mots tout à l'heure, j'en dirai un, c'est le business plan. Super. Le business plan, c'est que je pars avec une idée, une maquette, l'impression à la demande, on imprime 50 et 500 euros pour démarrer. C'est-à-dire qu'avec 500 euros, on peut se lancer dans l'édition. Après, est-ce qu'on peut en vivre? Non. Mais on peut au moins se faire plaisir et vivre de sa passion. Donc, les nouvelles technologies, on en a parlé, c'est l'impression à la demande. C'est très bien l'impression à la demande. Pour donner une idée, moi j'ai un imprimeur, je lui demande un exemplaire, il me le livre à domicile 4 jours plus tard. Je n'ai pas de stock à la maison. J'ai 2 exemplaires, 1 exemplaire. J'en ai plus, mais je passe une commande. Je fais un petit carton, c'est livré 4 jours. 4 jours pour imprimer un livre. C'est idéal. J'ai les commandes, pour moi c'est idéal. Je veux dire, j'ai même pas de stock dans le garage. Je sais qu'il y a des éditeurs qui en avaient 30, 40, 50 000 livres. Donc moi, ça c'est le premier point qui nous a fait là, c'est Lighting Source, qui est un imprimeur anglais. En plus, c'est anglais, donc il nous livre depuis l'Angleterre par UPS et DHL. Donc ça, pour moi, c'est idéal. Je passe une commande le dimanche, le jeudi, j'ai les livres. Et le vendredi, je fais toutes mes enveloppes, parce que ça n'a pas changé, il faut toujours aller à la poste. Ça, malheureusement, on en est encore là. On verra plus tard avec les livres numériques, mais là, il y a encore la poste. Ensuite, Internet aussi. Internet, c'est idéal. Internet, qu'est-ce que c'est qui nous a changé? Par exemple, c'est PayPal. C'est idiot à dire, mais PayPal, qu'est-ce que c'est? Mais PayPal, vous achetez un livre, et ça rentre directement dans notre trésorerie. On leur donne un peu d'argent, on est content, mais au moins, on a cette trésorerie. Et ça, pour un éditeur, une trésorerie, c'est très très important. Un libraire, il va vous payer sous 90 jours. Quand, oui, et je pense aussi là-dessus, 60, 90 ou jamais. Donc PayPal, c'est vrai, c'est une nouvelle technologie qui est très bien. Pourquoi? Parce qu'il achète le livre et nous, on a l'argent de suite. Donc Internet, après Internet, bien sûr, pour travailler avec les auteurs, même si moi, je travaille avec des auteurs qui ont plus de 85 ans, donc ils n'ont pas Internet. Je ne parle même pas des auteurs qui sont morts, qui ont encore Internet. Mais c'est vrai qu'à plus Internet, avec un site Internet, on se fait connaître. Là aussi, je veux dire, il y a 20 ans, comment on se faisait connaître? On se faisait connaître par les fanzines, les revues et tout ça. Maintenant, on se fait connaître et bien, par Internet, par Google, se fait référence et tout. Donc c'est vrai que les nouvelles technologies, aujourd'hui, on peut, avec un apport financier, se lancer à l'édition. Seulement, il faut savoir que c'est aussi... on devient l'esclave de l'édition. Ça aussi, savoir, parce que quand on est petit éditeur, on est tout seul, il faut être psychologue, il faut être correcteur, il faut être illustrateur, il faut être psychiatre, il faut être comptable, et ça, il doit être technologie, mais vous n'êtes pas là-dessus. Il faut gérer les auteurs, là, vous n'êtes pas. Il faut gérer les libraires, ça, vous n'êtes pas. Donc, les nouvelles technologies, oui, pour l'aspect technique, mais après, il reste tout l'autre aspect du monde de l'édition, où là, les nouvelles technologies, mais elles n'existent pas. Oui, mais sinon c'est vrai que moi je suis... au départ, ce qu'on avait dit avec Jean-Marc Officier, c'est qu'on était le dernier éditeur avant la poubelle. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait les grands éditeurs, puis après il y avait les petits et la poubelle.
Oui, enfin 150 titres.
Oui, mais 150 titres, je veux dire... Oui, mais on a de tout. Moi je dis, je publie ce que j'aime. C'est mon grand avantage, je publie vraiment ce que j'aime. Et à partir de là, je veux dire, un livre où avec 300 euros, je peux sortir les 30 premiers exemplaires et voir s'ils se vendent tout, envoyer service de presse, on peut aller très loin. Je veux dire, à la limite, il y a des éditeurs qui ont plus de 3 000, 4 000.
On peut te poser une question, mais reste, après, oui. Quel est ton plus gros tirage?
2500 exemplaires Selig, 1500 exemplaires d'Ali Kara qui m'a quitté, donc on ne peut plus monter plus loin.
Mais il est parti il y a 5 minutes.
Mais on peut aussi voir le plus... le plus bas aussi, je le dis aussi, c'est par exemple 30 exemplaires Docteur Omega. C'est un livre de 1902, il y a 30 fous qui l'ont lu, c'est tout. Mais je peux me permettre de publier un livre à 30 exemplaires.
Et tu n'as pas perdu d'argent?
J'ai pas perdu, non, si j'ai perdu d'argent, j'ai perdu un euro. Et encore, je veux dire, parce que 30 exemplaires, j'ai envoyé 10 de presse, 20 ventes, allez, c'est un euro j'ai perdu. Mais je me suis fait plaisir parce que celui-là, personne ne l'aurait publié. Donc voilà, mais on peut... Alors, il y a des inconvénients, c'est l'impression à demande, le livre est beaucoup plus cher à fabrication. Ça aussi, il faut le voir. Je veux dire qu'un livre, vous imprimez 1000 exemplaires, vous imprimez 10, c'est pas le même prix. Donc 5, et on revient ici sur le fameux business plan. Quand on est parti, on a dit, eh bien nous, on n'aura pas de distributeur, diffuseur, on va faire des contrats, on va donner un peu plus à l'auteur, on va en vendre moins, mais on va donner un peu plus à l'auteur. Donc tout ça, c'est un choix éditorial qui n'a rien à voir avec les nouvelles technologies. Mais la plus, c'est 2500. Mais après, je veux dire, ça tourne à 200 de moyenne. C'est pas plus sûr. Enfin, je n'ai pas à m'en cacher. Je vous dis, il y en a qui arrivent même pas à 50. Mais au moins, ce livre, il existe. Il a une vie. Au lieu qu'il reste dans...
Et il peut ressusciter n'importe quoi.
Et il peut ressusciter n'importe quoi. Je peux retirer mes premiers livres qui sont parus il y a 6 ans. L'imprimeur, tant que l'imprimeur a les fichiers, il imprime quand il veut, comme il veut. En 4 jours.
Eh bien, je vais maintenant cuisiner Jérôme Vincent. Donc Jérôme Vincent, il a d'abord été connu dans le milieu de l'imaginaire comme étant le webmestre d'un site d'information qui s'appelle ActuSF. Jérôme Vincent, dans sa vraie vie, il est journaliste. Et donc il a mis en place ce site de référence sur l'actualité, tout ce qui se passe, tout ce qui se publie, tous les événements, toutes les manifestations qui intéressent le monde de l'imaginaire sont mises en ligne par un groupe, parce qu'il y a toute une équipe derrière ActuSF qui s'est développée au fil du temps, qui maintenant fait des reportages en direct, des photos, qui publie des critiques, un site extrêmement actif, et parallèlement, mais je crois que c'est dans un deuxième temps, tu nous expliqueras tout ça. Jérôme est devenu éditeur et a lancé les éditions ActuSF. Ça fait donc encore une fois deux casquettes dans le monde de l'imaginaire, c'est pas tout à fait les mêmes. Parlons peut-être surtout de la maison d'édition ActuSF. Est-ce que tu aurais pu la lancer il y a 20 ans? Est-ce qu'elle est très liée à ce projet de site qui est quand même un site de référence très utilisé, très consulté par beaucoup de gens? Est-ce que ça aurait pu exister indépendamment de ce site? Comment ça marche? Tu en es à 40 titres, je crois, donc pas mal de recul aussi pour faire le bilan.
Alors, il y a 20 ans, non, parce que je n'étais pas majeur. je passais mon brevet des collèges et j'étais vraiment très loin de me dire qu'un jour je ferais de l'édition. Alors, j'étais très loin de tout à 14 ans, ma vie globale dans 20 ans. Enfin, je ne dis pas ça pour ceux qui étaient majeurs à ce moment-là.
Imagine que tu as eu l'âge que tu as il y a 20 ans.
C'est ça. Sauf mes hommages, quoi. Donc l'idée, oui, on a monté un site qui s'appelle ActuSF, qui fait effectivement de l'actualité sur la littérature imaginaire. Et juste avant ActuSF, il y avait un fanzine papier qui s'appelait la 85e dimension, à partir duquel nous faisions un concours de nouvelles réservé aux auteurs amateurs. Et donc nous souhaitions à l'époque publier les gagnants dans une anthologie qui était gratuite, avec que des auteurs inconnus. C'est dire si nous avions une idée de ce que faire un livre commercial voulait dire, quand même. On avait vraiment zéro chance de le vendre. Donc on a toujours fait un petit peu, mais c'était il y a 10 ans. Et donc au fur et à mesure que le site évoluait, on a toujours souhaité publier des livres, mais 1, 2, 3 par an. Et puis on en a fait 1, on en a fait 2, on en a fait 3. Et puis en 2007, on s'est dit, nos petits livres, ça marche plutôt pas mal. Donc on va mettre un vrai programme de parution en place, avec une vraie politique, avec des vrais choix. Le choix pour nous étant de publier essentiellement de la forme courte, un petit peu comme Griffe d'encre, avec des recueils de nouvelles, ou des novellas, ou des anthologies. Puis ce que les gros ne faisaient pas, ne souhaitaient pas faire, ou ne voulaient pas faire. Parce qu'il y a encore quelques années, les anthologies ne marchaient pas, et il fallait une certaine taille pour pouvoir être publié. je parle du livre, bien sûr. Voilà. Non, non, du tout. Et nous fêtons aujourd'hui notre 40e titre avec Georges Martin, Dragon de glace, qui est un recueil donc, de Martin. Alors, on n'aurait pas pu le faire il y a 20 ans, essentiellement pour ce que... Enfin, je vais répéter un peu ce qu'ont dit mes petits camarades, mais simplement pour des questions de fabrication. On n'aurait pas pu tirer à 700 exemplaires comme on l'a fait pour ce recueil-là. On n'aurait pas pu tirer à 500 ou à 2000, simplement parce que les technologies numériques n'étaient pas encore assez au point. Il aurait fallu tirer en offset, il aurait fallu en tirer 1500 ou 2000. Donc ça aurait demandé une trésorerie plus importante. Voilà, et donc plus de sous. Et on n'aurait pas pu le faire aussi il y a 20 ans, puisque effectivement, comme nous avons créé un média sur Internet, et comme nous avons notre propre canal d'information, c'est très pratique pour pouvoir parler de nos livres à nous, à des lecteurs de science-fiction qui viennent nous voir tous les jours, pour avoir des nœuds d'autres éditeurs, mais bah, du coup aussi nous, quoi. Bah, on les a piégés. Voilà.
Une question ?
Pas tout de suite.
On va parler maintenant avec Sébastien Sevé, qui va nous expliquer son projet. Alors, je crois que Sébastien, tu ne vas pas nous parler d'édition au sens... même si on a vu que l'édition dont on a parlé jusqu'à maintenant, elle a été très transformée dans la manière de la produire, mais à l'arrivée, vous avez toujours des livres classiques. Et Sébastien, il peut nous parler d'une forme d'expérience qui est beaucoup plus investie dans les nouvelles technologies, dans l'innovation, puisque là, on est en plein dans le numérique avec les éditions Angle Mort, qui sont toutes jeunes, hein, troisième numéro, je crois. Si tu permets, je dis juste un tout petit mot pour expliquer le principe, et puis après tu raconteras beaucoup mieux que moi, mais vous utilisez à fond les nouvelles technologies, Twitter, Facebook, les flux RSS, de manière encore peut-être plus intensive que nos camarades autour de la table. Ensuite, vous avez une publication qui est uniquement numérique, avec à chaque fois une nouvelle gratuite que tout le monde peut donc consulter, télécharger, mais un numéro payant plus complet, plus riche, qui lui coûte une somme modérée, 3 euros. Ben voilà, raconte-nous. Là, ma question, elle n'a plus de sens. Est-ce que tu aurais pu faire ça sans les nouvelles technologies ? Non. Mais comment ça marche ? Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan après 3 numéros ? C'est quand même nouveau. C'est génial.
Ouais, comme tu dis, bon, on s'appelle moins les éditions plutôt une revue. Donc on est une revue qui publie des nouvelles. Donc c'est une revue qui publie des nouvelles de littérature imaginaire, tant d'auteurs francophones que traduits. Et elle se présente, comme tu l'as dit, à travers deux canaux. Donc le premier canal, c'est on peut acheter un numéro pour 3 euros qui contient un éditorial, 4 nouvelles et 4 interviews avec chaque auteur à propos de leurs nouvelles. Et ça, c'est disponible, c'est trimestriel. Et donc, on peut l'acheter tous les 3 mois. Et ça se présente au format numérique. Donc, j'ai pas de livre devant moi, mais j'ai ma liseuse. Donc, on peut lire ça sur une liseuse, on peut l'imprimer si on veut, il y a une version PDF. On peut le lire sur le téléphone portable, on peut le lire sur un ordinateur, on peut le lire sur son iPad, sur n'importe quoi. Et donc, ça, c'est une liseuse électronique, je ne sais pas si vous l'avez tous vu. En l'occurrence, là, j'ai peut-être, je sais pas, 8 ans de manuscrit plus 10 romans là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment un des supports de lecture les plus pratiques pour cette nouvelle forme d'édition, qui est l'édition numérique. Donc, effectivement, c'est vraiment assez différent du concept d'impression sur demande qui résulte quand même à un livre papier. L'autre canal de lecture, c'est qu'on met toutes nos nouvelles en ligne gratuitement. Donc à mesure, tous les 3 mois sort un nouveau numéro, et à mesure, toutes les 3 semaines environ, on met une des nouvelles en ligne. Donc si vous allez sur angle-mort.fr, vous pouvez lire les nouvelles gratuitement sur le web. Donc au final, c'est gratuit, mais on peut payer si on veut. Donc c'est déjà un prix parti risqué, on pourrait dire, mais ça nous offre une visibilité plus grande, parce que les gens ils peuvent consulter et voir, tiens, est-ce que ce qu'ils publient est intéressant ? Oui, si oui, bah tiens, je vais peut-être acheter. Donc là, pour répondre à la question, est-ce que c'était possible il y a 20 ans ? Bon, je pense que vous avez deviné la réponse. Donc il y a 20 ans déjà, les ordinateurs personnels étaient assez rares. Internet, à part si vous étiez un super scientifique, je pense que vous n'avez même pas entendu parler. Donc non seulement le support de lecture, mais aussi le support de diffusion n'existait pas. Donc, je pense qu'on peut même raccourcir le laps, en fait, parce qu'il y a deux étapes. La première, c'est l'aspect technologique. Donc, il y a 20 ans, effectivement, on ne pouvait pas imaginer avoir créé une revue numérique. Maintenant, l'autre aspect, c'est l'aspect social. Est-ce que, même il y a 5 ans, on pouvait imaginer appeler ça une revue numérique? C'est pas sûr, parce que, disons que, de plus en plus, les gens utilisent Internet, utilisent les mobiles, utilisent leur téléphone portable, lisent sur leur tablette, sur l'ordinateur, ils utilisent Facebook, Twitter, etc. Et de plus en plus, parce que les gens passent de plus en plus de temps devant l'écran, ça devient moins absurde d'avoir un livre sous forme numérique plutôt que sous forme papier. De la même manière que la musique, maintenant, si vous téléchargez un MP3, vous écoutez de la musique sur Spotify ou Deezer, c'est pas aussi absurde que si votre grand-père, on en aurait parlé il y a 30 ans. Donc il y a aussi l'aspect social qui fait que ça va devenir quelque chose, je pense, d'assez incontournable. Il y a pas mal de gens de sceptiques, en fait, vis-à-vis de l'édition numérique, qui disent « oui, bon, mais l'odeur du papier, etc. » Bon, à ce propos, il y avait une conférence de Chan Amiabil qui disait je n'ai pas forcément de parti pris sur le numérique, mais si quelqu'un me parle de l'odeur du papier, il est directement disqualifié d'en parler. Parce que c'est simplement absurde, c'est comme de dire « ah non, je ne veux pas acheter de CD ou de MP3 parce que les vinyles, c'est mieux. » Bon, ces gens-là, ils n'existent plus beaucoup. L'autre aspect là, c'est l'aspect quantitatif. Amazon a publié récemment le chiffre qui disait qu'ils vendaient plus d'e-books maintenant que de livres papier. Autant poche que grand format. Ce qui est quand même assez énormissime, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, donc je pense que ça répond à la question.
Je crois, oui. On commence à avoir une vue d'ensemble. J'aimerais bien qu'on reprenne chacun des points, et puis là, je vais arrêter de vous cuisiner individuellement, et puis on verra qui est inspiré par la question. Pour qu'on parle un peu boutique et des nouvelles relations que vous avez avec tous les autres acteurs de la chaîne de l'édition, et je proposerais bien qu'on commence par regarder un peu les relations que vous avez avec les auteurs et en quoi elles changent. Bon, il y en aura d'autres à voir, mais Magali nous disait tout à l'heure qu'on lui envoie tous les manuscrits sous forme numérique maintenant. Alors là, il commence à y avoir un décalage assez sérieux avec les gros éditeurs, les éditeurs traditionnels, parce que pour ce que j'en connais, vous me direz si je me trompe, pour ce que j'en connais, on demande systématiquement des envois papier aux auteurs, peut-être pas systématiquement, mais dans un certain nombre d'endroits ça existe encore, parce que il y a toujours à un stade une demande d'un envoi numérique, mais pas toujours au stade initial, puisqu'il arrive qu'on demande un envoi numérique à l'auteur que quand on est prêt à retravailler son texte, et en gros quand il est accepté. En tout cas, il y a un certain nombre de maisons d'édition qui continuent à demander un manuscrit imprimé uniquement recto, au format 15 centimes par page, et avec toutes les consignes traditionnelles sur la manière dont il faut le présenter, des feuilles volantes, exemplaires non reliés, etc. Ça n'a pas complètement disparu, même si apparemment ça commence à changer. Alors, donc, est-ce que vous êtes tous d'accord sur le fait que maintenant il faut mieux recevoir un envoi numérique, c'est-à-dire, sous-entendu, est-ce que votre réaction quand vous le recevez n'est pas de l'imprimer? Parce que si vous l'imprimez, ça n'a plus aucun sens, et c'est vous qui payez le papier, l'encre, et le tirage, et l'usure de l'imprimante. Donc, vous préférez recevoir sous forme numérique, oui ou non, tous? Est-ce que, et puis je vais poser encore une question qui fâche, mais est-ce qu'avec ce modèle à coût de production extrêmement bas, investissement extrêmement bas, est-ce que vous payez encore vos auteurs? La question se pose de manière évidente quand vous nous dites que vous faites un tirage à 100 ou 150 exemplaires. On peut se demander si la frontière commence à s'estomper. Je vais faire de la provoque, mais est-ce que la frontière entre l'édition à compte d'auteur et l'édition à compte d'auteur et d'éditeur est en train de s'estomper? Est-ce que l'auteur est encore au moins un petit peu payé? Est-ce que lui, il arrive qu'on lui demande de participer aux frais, auquel cas on serait en train de basculer du côté de l'édition à compte d'auteur? Voilà, alors comment ça se passe avec vos auteurs? Qui veut commencer?
Magali. Pour la première question, papier, nous on n'en veut pas du tout. Enfin, on en reçoit, il arrive encore presque plus, mais de temps en temps, il y a un manuscrit papier qui se garde dans une boîte aux lettres. En général, on le renvoie quasiment immédiatement. Disons, vous pouvez dire, on ne le lira pas en papier. On les lit sur ordinateur, on les fait passer à notre comité de lecture par informatique. Je pense qu'il y a aussi quelques auteurs qui ne sont pas sécurisés par le numérique, parce qu'ils ont peur qu'on utilise. Un papier, c'est un seul exemplaire, il faudrait le photocopier, etc. Donc, ils ont l'impression que le fait d'envoyer juste un exemplaire papier, leur livre est plus en sécurité qu'en numérique. Mais nous, on ne prend pas. C'est une question de gain de temps, pour plein de raisons, on ne prend plus du tout le papier. Pour ce qui est des auteurs, on les paye, oui, on les paye. Alors, on est vraiment contre l'édition à compte d'auteur. C'est-à-dire que l'auteur ne doit pas... On ne paye pas beaucoup. Enfin, on fait des contrats classiques avec un pourcentage, etc. Donc, comme on n'a pas des gros tirages, bah, forcément, l'auteur n'a pas grand-chose. Le coût semble peut-être réduit, mais pour nous, le coût est encore important. On calcule vraiment... Il n'y a qu'à voir le prix de nos livres. Si on pouvait faire moins cher, on ferait moins cher. Mais on a fait des choix qui font qu'on a choisi du papier issu de forêts autogérées. On va de plus en plus dans une démarche aussi écologique et responsable, qui coûte cher, malheureusement. Donc on n'est pas vraiment... On peut faire ce qu'on n'aurait pas fait il y a 20 ans grâce aux nouvelles technologies, mais on n'est pas à un coût super minime non plus. Ça nous coûte quand même pas mal, donc on paye nos auteurs. Et si un auteur vient nous voir un jour en nous disant, vient nous demander conseil en nous disant, maintenant on m'a demandé de verser même, ou de garantir l'achat de tant de bouquins, parce qu'il y a ça aussi qui existe, on lui dit, sauf toi. C'est pas, ou alors c'est vraiment un choix que tu veux, que tu assumes, mais c'est pas de l'édition.
Donc, alors je vais reposer un peu la question autrement. Est-ce que dans la mesure où vous êtes prêt à faire des tout petits tirages et à ne pas investir beaucoup d'argent, est-ce que ça peut vous rendre plus tolérant et à la limite vous permettre d'accepter des projets qui ne vous enthousiasment que moyennement?
Non. On va accepter des projets qu'on ne rentabilisera pas et qui vont nous coûter des sous, parce qu'on sait que ça ne nous coûtera pas trop d'argent, et encore des fois on se trompe. Parce que voilà, c'est des projets qu'on a super à cœur et qu'on n'aurait pas fait. Genre, on a fait Geek de James Lovegrove, qui avec la traduction nous a coûté quand même beaucoup de sous, un ovni. On n'est pas rentré dans nos frais, mais on l'a fait. Parce que voilà, le numérique nous a permis de le faire. Mais si on n'est pas convaincu, non, on ne va pas le faire. Ça reste, on fait ça par passion, donc on va produire des bouquins qui nous passionnent et on ne va pas aller sur quelque chose de moindre qualité. C'est pas forcément une question de qualité, mais de moindre affectif en tout cas.
Tu fais de la provoque, alors je vais faire de la provoque aussi. À la limite, quand je publie un bouquin, c'est parce que j'estime que c'est un bouquin qui mérite d'entrer dans le patrimoine littéraire et culturel de notre pays. J'ai publié des bouquins que je trouve excellents, qui se vendent très mal. Toutes les chroniques sont bonnes. Hein. Tous les gens qui les lisent, ils disent « Ouais, super bouquin et tout. » Je pense notamment à la novella de Pierre Géba, qui est vraiment une très bonne novella. Et puis les ventes, elles ne suivent pas derrière. Alors c'est vrai, c'est borderline, parce qu'on est à la frontière entre la littérature de l'imaginaire et la littérature blanche. Donc c'est peut-être pour ça que ce livre a un petit peu du mal à trouver son public. Mais alors Pierre n'a pas gagné beaucoup, mais il est payé. Et c'est comme avec Griffe d'encre, on fait des bouquins avec du papier, on a le logo derrière, hein, c'est comme
ça. Même éditeur.
On a même imprimeur.
Ah, l'imprimeur. Ouais.
Et puis alors, vous voyez, moi je fais des trucs, c'est épouvantable. Je fais des ouvrages jeunesse, tout en couleur. Ça coûte super cher à faire du tout. Je tire les prix le plus bas possible. Quand je les vends dans le circuit de la librairie, avec toutes les marges qui faut imputer sur le livre, puisque y a la marge du libraire, la marge du diffuseur, distributeur, et c'est normal qu'il y ait ces marges-là, la TVA, payée, voilà. Et sur le réseau de la librairie, sur certains bouquins, je perds de l'argent. Mais il faut que le livre soit aussi chez le libraire, parce que tout le monde n'a pas accès à Internet, tout le monde ne peut pas trouver le bouquin, et tout le monde vient pas dans les festivals, dans les salons, etc. si je pouvais, comme Magali, si je pouvais faire les bouquins moins chers, je le ferais. Alors, sur ce genre d'ouvrage, vous prenez les éditeurs qui sont en jeunesse en général, je ne sais pas, Milan, Bayard Jeunesse, enfin, tout ces, ce genre d'ouvrage pour enfants. On va faire ça en Chine, en Thaïlande.
Pas du tout, non.
On n'est pas toujours certain de l'âge de la personne qui a travaillé sur le bouquin pour le fabriquer. Et puis, pour rentabiliser ça, bah, parce que quand même, c'est loin, il faut faire des gros tirages. Et on se retrouve dans la même problématique que j'évoquais tantôt, la trésorerie.
Et le pilon.
Et puis, évidemment, tout ce qui n'est pas vendu, c'est le pilon. C'est la destruction du livre. Donc, je peux pas. Je peux pas. Donc, je me fais engueuler régulièrement par ma mère, parce qu'en plus, ma mère, c'est ma comptable. Donc, elle m'engueule à double titre. Quand est-ce que tu vas gagner de l'argent? Vraiment, jamais. Enfin, maintenant, je l'ai compris, jamais. Mais d'un autre côté, petit à petit, j'ai réussi à la sensibiliser à la démarche de publier des livres qui sont bons, qu'un gros éditeur, il y a 20 ans, aurait peut-être publié, parce qu'il s'intéressait à la qualité littéraire, il s'intéressait à la valeur artistique du livre. Maintenant, le gros éditeur qui a du pognon, je ne parle pas des éditeurs de l'imaginaire, je parle vraiment des gros monstres qui imposent leurs offices aux libraires et qui phagocytent complètement le paysage, notamment aussi au niveau des médias, ben eux, ça va être des rentabilités immédiates, des taux de rentabilité bien supérieurs à celui qu'avait le livre traditionnellement. Et il y a un livre qui est traité comme un produit et donc qui doit ratisser le plus large possible. Et que l'auteur, un jour, dans quelques années, son texte soit étudié dans les écoles, que l'auteur il soit dans le dictionnaire, dans la page des noms propres, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils voient, c'est auteur, bouquin, pognon. Et il y a des auteurs qui sont vraiment excellents et qui ne trouveront pas de place chez les gros éditeurs parce que les gros éditeurs diront on n'en vendra pas assez, on ne fera pas assez de pognon avec.
C'est ce que les éditeurs pensent des nouvelles, déjà, globalement.
Voilà, et nous, on se bat justement pour préserver les textes de qualité, parce que si on n'était pas là, c'est pas pour se vanter ni quoi, mais si on n'était pas là, il y a des vrais bons auteurs et des vrais bons textes qui n'existeraient pas.
Encore un dernier mot sur l'auteur
Déjà, moi, je voudrais peut-être le seul éditeur à avoir des manuscrits tapés à la machine à écrire. J'en ai deux, alors je ne dis pas le travail qu'il faut faire pour les scanner et tout ça. Qu'il est plus facile d'écrire un livre que de vendre un livre. Qu'il y a plus d'auteurs que de lecteurs. Si je voulais devenir riche, je ferais éditeur à compte d'auteur. Parce que c'est malheureux à dire, mais quand je refuse un manuscrit, on me dit oui, mais si j'en commande 200, oui, mais si je vous paye 2000 euros, ça existe. Moi, j'en reçois. Donc à la limite, je pourrais faire ça aussi, que je ne veux pas le faire, parce que là, c'est pas ma façon d'être, je m'en vends pas. Ça n'est pas du chèque, mais bon, c'est pas ma façon d'être. Que pour moi, un auteur, c'est peut-être le principal, c'est pour lui qu'on fait ça, c'est pour lui que j'ai voulu être éditeur. Donc nous, on a un contrat qui est très simple, il fait une page, l'auteur garde tous les droits annexes. S'il trouve mieux ailleurs, mais tant mieux. Je veux dire, l'exemple là, type, c'est David Carra qui est... a été publié chez Michel Lafon. Quand Michel Lafon a demandé « Mais combien on doit payer pour avoir les droits ?» On lui a répondu « Zéro ». Il nous a pris pour des fous. On est des fous. Si Spielberg prend le film, eh bien, c'est l'auteur qui aura droit. Parce que justement, on sait qu'on ne peut pas payer d'avaloir, on sait qu'on ne peut pas le payer. Donc on essaie à compenser par garder les droits. Et après, je veux dire que nous, on partage les bénéfices. C'est-à-dire que si on a 3 euros de bénéfices, eh bien, on a 1,50 € pour l'éditeur, 1,50 € pour l'auteur. Alors, quand 100 exemplaires, et bien des fois 100 exemplaires, l'auteur peut toucher 300, 400 euros. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça lui paye un bon repas. Et puis, il est content parce que tous les 6 mois, il reçoit des droits d'auteur. Là-dessus, c'est ça. Mais après, c'est vrai que mon truc, c'est pour l'auteur, pour le jeune auteur, pour essayer de lui donner une chance que ne lui donnera peut-être pas un grand éditeur. C'est pour ça que je rejoins entièrement ce qu'on fait. Je dirais, les nouvelles technologies, c'est bien, mais le métier derrière, c'est bien.
Je vais juste donner notre perspective là-dessus. En l'occurrence, donc, pour répondre à la question, angle mort, est-ce qu'on paye nos auteurs? La réponse est non, sauf exception, pas encore. Sauf exception parce qu'une fois, on avait un manuscrit anglo-saxon qu'on voulait absolument avoir et ils demandaient à le payer, donc on a quand même d'argent parce qu'il y a quand même des gens mystérieusement qui achètent les numéros électroniques plus qu'on pensait en fait. Donc on a quand même de l'argent qui rentre, mais on ne peut pas, sauf exception, on a de la peine à payer les auteurs suffisamment pour que ça vaille la peine. Mais on est en train de, on travaille là-dessus. C'est, donc à moyen terme, c'est un but clair d'Angle Mort de se professionnaliser dans ce sens-là et de payer à travers des recherches de fonds, plus de canaux de rentrée financière, etc. Et d'autre part, une remarque annexe, c'est quand même qu'on paye nos traducteurs depuis le dernier numéro. Donc on paye un forfait pour les traducteurs professionnels.
Et bien nous aussi nous payons. Voilà. voilà. Effectivement, un compte d'auteur serait mieux, serait plus intéressant, mais non, on paye. On paye des gens. On paye avec un avaloir et un pourcentage. Pour parler très clair, en général, sur un recueil de nouvelles d'un auteur français, nous payons aux alentours de 300 euros d'avaloir plus 8% ensuite sur les ventes. Ce qui est au prorata, bah, en fait, pour elle, c'est toujours la même chose. Quand on vend 500 exemplaires chez nous, on aurait fait 2000 ailleurs, mais il fallait qu'il soit saisi d'ailleurs. Donc, du coup, il touche un petit peu moins dans une autre grosse maison d'édition, mais c'est un petit peu proportionnel. On paye aussi nos illustrateurs, on paye aussi nos correcteurs. Voilà, que nous, on ne paye pas. Mais voilà, mais enfin, moi, je me garde bien de tout angélisme par derrière. C'est-à-dire, quand on fait un livre, c'est parce qu'on y croit, et qu'on y croit aussi commercialement, parce que commercial n'est pas un gros mot. On a fait des livres, on a fait des fours, hein, donc je suis très fier d'avoir fait des fours, c'est cool, mais finalement j'ai pas servi forcément l'auteur et j'ai pas forcément servi la maison d'édition, donc je vous encourage à lire Bombe, si vous y comprenez quelque chose, ou bien encore un livre qui s'appelle Custer et moi, en plus ils sont pas chers, ils sont à 6 euros, profitez-en. C'est très bien, c'est super, mais on les a pas rendus, et du coup c'est vrai que...
Il y a une bonne postface.
Ça, c'est du marketing.
Non, non, mais j'aime bien perdre des sous, mais même si je suis un petit éditeur et qu'il y a de la passion et qu'il y a une part de folie, qu'il y a une part d'inconscient et qu'on essaye de se battre pour payer tout le monde, etc., il faut qu'un livre soit rentable, quoi. Sinon, dans ces cas-là, j'utilise une photocopieuse. Donc voilà, après, ça engendre d'autres types de politiques et d'autres types de choix, très clairement. Mais voilà.
Le but, c'est pas de perdre des sous, mais c'est là, ça permet quand même de prendre des risques
qu'on ne
prendrait pas autrement.
Complètement.
Alors moi, le temps passe à toute vitesse, ouais. Donc je vais vous demander une réponse très concise. J'aimerais bien savoir si les nouvelles technologies vous ont amené à prendre en charge de nouvelles facettes du métier que ne traitaient pas les éditeurs avant. Et très concrètement, par exemple, avant c'était l'imprimeur qui préparait la maquette, qui faisait les épreuves. Est-ce que tout a basculé chez vous? Est-ce que c'est vous maintenant qui composez les bouquins, qui faites la maquette? C'est une nouvelle facette du métier. Est-ce que vous l'assumez? Est-ce que vous la sous-traitez?
On fait tout.
Ils disent qu'ils font tout.
On fait tout. Mais avant, quand même, tu avais chez de très gros éditeurs un service de photocomposition. C'était pas toujours chez l'imprimeur que ça se passait.
Ah non. On fait aussi la comptabilité.
On fait tout.
Il faut être commercial. On fait les cartons, on va à la poste, on met les timbres, on met les adresses. Mmh. On fait tout. Comme j'ai dit, il faut être très polyvalent. Il y a une nouvelle technologie, mais après, le reste, ben, c'est l'homme.
Voilà. Moi, j'en avais marre de tout faire, alors j'ai quand même délégué des trucs. Ah. Celui d'Ovic, notamment, qui est mon diffuseur-distributeur. Maintenant, voilà. C'est lui qui fait les cartons. Qui va voir les libraires aussi.
Alors, comme il nous reste 5 minutes, j'avais quand même envie de vous demander, on a quand même fait surtout un bilan du présent. On était censé parler d'évolution. Donc moi, j'aimerais vous demander si vous avez des envies ou des projets un peu fous, faire des livres audio, faire des bouquins, faire des bouquins par des collaboratifs d'auteurs, faire réagir les lecteurs sur un projet de bouquin qui ne serait pas fini, enfin je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de nouveau avec les nouvelles technologies qui ne fassent pas partie de ce qui est habituellement la production d'un livre papier ou numérique? Et qu'il soit un peu original.
On a des projets en cours avec des auteurs, et on parle avec eux, on ne va pas encore les citer ici, mais disons qu'on peut, avec le numérique, on peut déjà imaginer pas mal de choses au niveau artistique. Bon, c'est plus une page, c'est plus une série de pages, ça peut être un grand canevas, ça peut être un truc dynamique, il peut y avoir des animations, il peut y avoir. Donc ça peut être gadgets, mais ça peut aussi servir, donc à l'intrigue, si vous pensez à. à des livres comme L'Avoir du contrebon, il y a presque des effets statiques sur la page, mais avec la ponctuation et tout ça qui sont presque, si on veut, des effets technologiques de l'impression. Donc on peut imaginer des choses qui ajoutent au texte d'un point de vue créatif grâce au numérique. D'autre part, au niveau de l'édition, simplement, je pense que quelque chose qui est possible grâce au numérique, qui n'est pas possible sinon, c'est on peut vous envoyer une nouvelle par jour, par exemple. Ça, c'est, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas vous envoyer par la poste une nouvelle par jour, ça coûte trop cher. Et donc, il y a plein de systèmes, par exemple, qui reposent sur le fait qu'il n'y a pas de produit physique à créer. Et donc, il y a forcément, pour revenir sur le concept du numérique, il y a toujours un coût à ça. Donc, c'est pas juste, ah tiens, c'est juste un fichier, c'est gratuit. Il y a forcément un coût de développer la technologie, l'envoi, etc., la gestion des comptes et tout ça. Donc, c'est pas que les technologies seront toutes gratuites, mais ils rendent des nouvelles choses possibles qui n'étaient pas simplement avant pour des raisons physiques du médium.
Moi, je suis trop vieux, j'ai ce sang jeune. Je garde mon papier, puis bon. Puis, en plus, je veux dire que. Oui, quand Henri Desmarchais est marché, on dit combien on est resté 6 mois, 1 an, 6 ans, 1 an, 6 ans, puis un jour peut-être un an. Donc, je suis trop vieux pour le hibou, pour tout ça. Il y a des jeunes qui prennent. Non, d'ailleurs, on n'a pas les droits numériques sur notre. Où je laisse ça à notre.
Jérôme.
Sur le futur, d'abord continuer à pouvoir jouer comme ça, développer nos collections, améliorer nos ventes, améliorer de manière très traditionnelle notre présence en librairie, améliorer notre présence sur Internet, Facebook, gagner l'auto aussi, éventuellement, voir à l'euro million, comme ça c'est vraiment définitif, hein, on gagne une fois puis c'est réglé. Voilà un petit peu tout ça, le numérique, on y pense. Voilà, ça fait longtemps qu'on y pense, qu'on y pense plus sérieusement un jour, mais on y pense pour faire des putains de livres numériques, je jure. Mais pour l'instant, on se concentre un peu sur le papier, et l'idée, c'est de pouvoir continuer à développer nos lignes éditoriales tout en vendant mieux nos livres qui trouvent un peu plus de lecteurs derrière.
Vous avez conquis la Suisse récemment.
Nous allons conquérir la Suisse, voilà. La Suisse ne connaît pas encore sa chance, bientôt tous les Suisses pourront lire des livres à QSF. Et voilà, se plonger dans une joie, un bonheur, une félicité que vous-même, lecteur, vous pouvez découvrir maintenant sur le site. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Nous vous aimons déjà. Et dépêchez-vous, il y aura bientôt plus votre taille.
T'as des auteurs suisses,
hein ? Nathalie ? Alors, des livres audio, en audio catalogue pour enfants, puisque c'est des livres. Genre de trucs. Projet complètement fou. J'ai fait deux livres pour enfants. Sont agrafés parce qu'il y a aussi un album de coloriage à l'intérieur. Puis en plus, à la fin d'un des deux, il y a même un petit livret d'exercices, jeux qui ont été conçus par l'auteur qui est aussi un site. Voilà. Et il y a le CD audio qu'on allait enregistrer en studio avec un musicien qui a composé des musiques originales exprès et tout. Puis c'est pas cher pour ce que c'est parce que 10 euros l'un, 12 euros l'autre. En plus, on les vend en lot sur le stand avec une réduction. Faire de la pub, moi aussi. Et puis, vous allez voir le libraire avec ces bouquins-là, et puis il vous dit « Ah, mais c'est agrafé, on ne sait pas où le mettre. Ah, mais il y a du coloriage, on ne sait pas dans quel rayon le mettre. Ah, mais il y a un CD, on ne sait pas dans quel rayon le mettre. Ah, mais il y a des exercices, c'est du scolaire, on ne va pas le mettre dans un rayon pour les enfants. » Donc, bref, les suivants, on a laissé tomber le CD audio, on a laissé tomber les agrafes, hein, on est passé avec le petit dos carré collé, on a laissé tomber l'album de coloriage, donc ça, les libraires, ils savent où le mettre. C'est pas forcément pour ça qu'ils vont nous en prendre plus, parce que maintenant l'argument c'est « Ah ouais, mais quand même c'est un peu cher !» Oui, nous, je sais pas, quand on fait des salons, des festivals, on les vend. Les gens, ils les trouvent pas chers, ils les trouvent bien. Ils sont contents de les prendre, leurs enfants sont contents de les lire. On a des tas de retours positifs sur nos bouquins jeunesse. Pourquoi le libraire, il me fait un blocage? J'en sais rien. Donc, en fait, l'envie que j'aurais, ce serait de lancer une grande campagne de psychanalyse du libraire, et puis ensuite lire les résultats, et comprendre comment ça marche, ces bêtes-là. Parce qu'à part quelques-uns, avec lesquels j'ai des rapports plus privilégiés, qui travaillent vraiment toute partie de notre catalogue et qui ont envie de soutenir les petites maisons d'édition, il y en a, Charlotte Bousquet, coup de cœur du festival. Vous allez voir un libraire, vous avez un bouquin d'aide chez vous, ah oui, mais vous êtes micro-éditeur avec un diffuseur qui n'est pas encore suffisamment connu pour eux, donc ils ne vont pas le prendre. Ils ne vont pas le prendre alors que le bouquin est bien. Et là, je comprends.
Mais vous allez le prendre ici. Magali
Pour ce qui est de nouvelles technologies, on pense aussi au numérique. Et comme Jérôme, on y pense très fort, très très fort. On espère que ça va se faire bientôt. L'idée était on continue à privilégier le livre papier, mais juste pour avoir une plus grande visibilité. Encore, utiliser ces nouvelles technologies pour nous rendre plus accessibles à des gens qui ne se déplacent pas dans les salons, qui ne sont pas là comme vous pour nous rencontrer. Et puis d'autres choses, des projets un peu fous, mais pour l'instant ça germe, donc on n'en parle pas encore. On attend que ça se concrétise pour pas dire de bêtises, donner de faux espoirs, mais on espère des petits trucs un peu fous dans les années qui viennent.
Voilà. Je crois qu'on peut tous remercier les éditeurs qui nous ont vraiment raconté avec beaucoup de sincérité leur passion et leurs aventures respectives. Venez découvrir leur maison d'édition, venez les trouver sur les stands, ils ont plein de belles choses à vous présenter. Merci à tous et bonne continuation.
Merci. Merci.